l'heure de l'info média du jour et on parle, Philippe Landel, ce matin de la fiction française.
Mais oui, effectivement, c'est une tendance lourde de cette rentrée télé, la fiction qui arrive en masse sur nos téléviseurs et les programmes de flux un peu délaissés, d'abord à cause de l'audience, ça marche, et ensuite parce qu'avec la future loi audiovisuelle promise par le gouvernement, les chaînes pourront davantage capitaliser et vendre elles-mêmes leur fiction, alors que jusqu'à présent, ce sont surtout les producteurs qui en profitent et non pas la chaîne qui a financé le produit. C'est également l'ouverture du Festival de La Rochelle, Festival de la fiction, et nous recevrons demain sa présidente Valérie Kersanti. Pour en parler, je reçois Philippe Bailly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur et dirigeant de NPA Conseil, je précise, NPA c'est un cabinet spécialisé dans l'économie des médias, et François Rousseau, bonjour François.
Bonjour Philippe.
Journaliste, média. François, vous avez regardé l'ensemble de l'offre de fiction, qu'est-ce qu'on y trouve ?
Oh bah c'est à s'y perdre Philippe, il suffit de zapper, en plus des valeurs sûres comme Alex Hugo ou Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, les chaînes ont dégainé leurs nouveautés de rentrée, des séries, des polars, des thrillers, et ça va durer toute l'année. Sur TF1, il y aura une quinzaine de nouvelles fictions. En ce moment, Le Temps est assassin avec Mathilde Seigner, en attendant Le Bazar de la Charité avec Audrey Fleurot ou Pour Sarah. Sur France 2, À l'intérieur avec Béatrice Dalle. Sur France 3, Soupçon avec Julie Gayet. Sur M6, L'Homme que j'ai condamné. Et sur Canal+, Les Sauvages avec Roche Dizem et Marina Foïs. Tout ça en attendant la reine des audiences, la femme aux 7 millions de fans sur France 3. Capitaine Marlowe, alias Corinne Maziero, avec deux épisodes inédits à l'automne, l'un avec Joey Starr, l'autre avec Cadmerade et André Manoukian.
Alors on l'a vu, vous avez cité des noms, Béatrice Dalle, Julie Gayet, Audrey Fleurot, Mathilde Seigner. Les stars de cinéma ne refusent plus de tourner dans les fictions télé alors qu'il y a 10-15 ans, elles se pincent le nez.
Exactement, Philippe. C'est un signe qui ne trompe pas. Les frontières s'estompent. Isabelle Adjani a joué dans 10% ou dans Capitaine Marlowe. Joey Starr aussi. Avant, la fiction française, c'était la cerise sur le gâteau pour l'audience des chaînes. Aujourd'hui, c'est leur fer de lance. Et c'est pour ça que les chaînes investissent massivement. Même en replay, ça cartonne. Et ça se fait au détriment des séries étrangères. Alors certes, cette semaine, Good Doctor saison 2 revient. Ce sera mercredi sur TF1. Mais les fictions américaines sont à leur plus bas niveau sur France 2, Canal+, et M6. À l'inverse, la fiction française progresse partout. C'est 29% de l'offre de France 2 et 32% de celle de France 3.
Et elle progresse en plus en audience. Philippe Bailly, votre société NPA Conseil, conseille justement toutes les chaînes un peu. On peut dire ça, vous avez travaillé avec toutes les chaînes.
Depuis 20 ans que le cabinet existe, oui, on a travaillé à peu près avec tout le monde.
Est-ce que vous leur conseillez maintenant actuellement d'investir dans la fiction? Et si oui, pourquoi?
Ah, j'ai pas besoin de leur conseiller, elles le font déjà. Elles le font d'abord parce qu'elles y sont contraintes par la loi. Elles doivent... dépenser un petit 15%, ça dépend des chaînes, mais environ 15% de leur chiffre d'affaires dans de la production de fiction ou de documentaire. Et puis, elles y vont aussi parce que ça fonctionne. François citait à l'instant les séries qui sont déjà sorties cette saison, ces dernières semaines. Un des points communs qu'elles ont, quand on parle de Soupçon sur la 3, quand on parle d'À l'intérieur sur France 2, ou du Temps est assassin sur TF1, c'est que toutes les trois ont surperformé. Elles ont fait mieux au moment de leur lancement que la moyenne de la case de la saison dernière. Donc ça marche, et le CSA qui publie tous les ans un palmarès de ce qu'on regarde, de ce que les Français regardent comme fiction à la télé, fait le constat maintenant répété, mais c'était pas le cas il y a 10 ans, que le top du classement, il est monopolisé par des fictions françaises.
Ouais, à tel point, pardon, que parfois Capitaine Marlowe battait des séries américaines, même en étant elle-même en rediffusion.
Exactement.
Avec des scores 6-7 millions avec une rediff, c'est quand même assez incroyable. Alors François Rousseau, dans cette avalanche de fiction, vous avez remarqué une tendance.
Oui Philippe, le sociétal, le bon filon, dès ce soir sur TF1, avec un film coup de poing.
Ah oui, j'ai vu le titre dans le programme de ce soir, Jamais sans toi Luna.
Exactement, c'est à 21h, bon je l'ai vu hier, il y a tous les ingrédients, une histoire vraie, donc du vécu, un drame, des stars, dont l'acteur couronné d'un César, Rod Parado, le cocktail parfait pour l'audience. Écoutez cet extrait.
Tu frappes ta fille depuis qu'elle est née?
C'est pas un hématome, c'est une maladie orpheline héréditaire. Luna tient ça de sa mère.
Ah, parce que t'es médecin, toi, maintenant?
Comment vous pouvez imaginer qu'on ait pu la frapper ou lui faire du mal?
Cet enfant est en grande détresse.
Mais ses parents plaident non coupables. Ils clament leur innocence.
On avait peur, c'est tout. On avait juste peur. C'est un crime, ça?
Ce film choc, c'est l'histoire vraie de Sabrina et Johan Bombard, ce couple auquel la justice retire en 2012 la garde de leur petite fille parce qu'elle le soupçonne à tort de maltraitance. Les parents ont dû se battre 4 ans avant de récupérer l'enfant. Ils en ont tiré un livre, dont ce film, ce soir, est l'adaptation.
Et c'est la fiction qui s'empare du réel.
Exactement. Réalité et actualité. C'était une tendance, c'est devenu un pilier quand le réel met en lumière un sujet de société. Et ça cartonne, souvenez-vous, Muriel Robin en Jacqueline Sauvage pour un téléfilm adapté du livre de Jacqueline Sauvage. 8 millions de téléspectateurs, 900 000 en replay, 34% de part de marché. On n'avait pas vu un tel score pour une fiction française sur TF1 depuis 3 ans. Et puis l'actrice, eh bien Muriel Robin, s'est emparée de ce rôle pour mener un combat de société, même un combat politique sur les femmes battues. Et ça continue puisque samedi soir, sur le plateau d'On n'est pas couché, elle a une nouvelle fois interpellé le président Macron.
Je demande au président combien coûte la vie d'une femme. J'ai posé la question plusieurs fois déjà, on ne m'a pas répondu. Je souhaiterais une réponse. Elle n'est pas facile, j'en conviens. Mais Manuel, c'est vous qui êtes qui avez le job, alors... Non mais il faut répondre un moment. Parce que ces femmes qui meurent, qui sont assassinées, sont nos filles, nos mères, nos sœurs, nos amis. C'est insupportable.
On voit là la sincérité de Muriel Robin. Elle s'adresse au président en disant « Emmanuel, c'est vous qui avez le job. Le job, c'est président. » Et Muriel Robin, qu'on a beaucoup vu dans la rue, dans les manifestations, et qui vient de tourner, si je suis bien informé, un nouveau téléfilm consacré à la maladie d'Alzheimer, c'est ça ?
Exactement.
Philippe Bailly, grâce à la loi audiovisuelle qui a été voulue par Franck Riester, le nouveau ministre de la Culture et de la Communication, les chaînes de télé vont pouvoir davantage capitaliser, vendre elles-mêmes leur fiction, expliquer ce que ça va changer.
Bah, jusque-là, les chaînes étaient obligées de confier 2/3 de leur production à des producteurs dits indépendants qui conservaient tous les droits.
Vous êtes sûr des 2/3 ? J'avais 75%, j'avais les 3/4 moi comme chiffre.
75% sur le cinéma, 2/3 pour la fiction. Donc encore une fois, ces producteurs gardaient tous les droits une fois que la série avait été diffusée et notamment le droit qui devient un peu la caverne d'Ali Baba, celui de la vidéo à la demande sur abonnement de la fameuse SVOD. Netflix, Amazon, bientôt Salto et Disney Plus encore.
On arrivait à des absurdités comme la série Le Bureau des Légendes qui a été financée et diffusée par Canal Plus, mais produite par une société extérieure. Et c'est cette société qui profitait des ventes internationales. C'est comme si, Disney finançait Le Roi Lion, mais c'était Disney qui récupérait pas les sous.
Ça va un petit peu plus loin même. C'est un exemple que Nance Paolini avait pris à un moment.
Nance Paolini, le patron de TF1.
L'ancien patron de TF1, il avait indiqué que sur des séries anciennes, je crois que son exemple était celui d'Alice Nevers, que TF1 avait financé à 75-80%. Quand 4-5 ans plus tard, TF1 voulait le rediffuser, il devait repayer aux producteurs pour pouvoir, alors évidemment pas le même montant, mais pour pouvoir rediffuser. J'avais trouvé un parallèle qui vaut ce qui vaut, mais c'est un peu comme si quand vous faisiez construire votre appartement, vous prenez un architecte, donc vous payez les maçons, les électriciens, etc. Et puis une fois que l'appartement est terminé, l'architecte vous dit « Ok, vous avez le droit de l'occuper pendant 3 mois, et puis après je reviens, je prends les clés et c'est mon tour ». C'était un peu ça. Jusque-là, les chaînes avaient juste le droit de payer cher, ça coûte à peu près 1 million d'euros par épisode, une fiction de prime time, pour pouvoir diffuser 2 ou 3 fois dans les 2-3 premières années de la série, et puis après c'était fini.
Maintenant il va se passer quoi ? Je précise que c'est qu'un projet de loi. Maintenant, donc on avait dit soit 1/4, soit 1/3, et désormais...
Ça va être 50%.
Moitié-moitié.
Donc les chaînes auront davantage de capacité à exploiter les droits de leur fiction, et c'est très important. Rappelez-vous que dans quelques semaines, on devrait voir arriver sur le marché Salto, la plateforme conçue par TF1, France Télévisions et M6 et qui est supposée faire concurrence aux plateformes étrangères, Netflix, Amazon, pour ne citer que les principales. Voilà, avoir des droits, pouvoir utiliser les droits de ces séries, c'est extrêmement important. Juste un parallèle, en Angleterre, la BBC, et c'est une décision de cet été, dorénavant, elle pourra conserver les droits d'une fiction qu'elle a financée pendant 1 mois, et même jusqu'à 5 ans pour les dessins animés, ce qui est une chose absolument impossible en France aujourd'hui.
D'un mot, François Rousseau, la bonne nouvelle, c'est la percée de la fiction française à l'international.
Exactement, surtout aux États-Unis, en Allemagne ou en Belgique. En 25 ans, les ventes de formats français à l'étranger ont triplé. Alors ça concerne surtout les séries. Candice Renoir, par exemple, s'est vendue dans 80 pays. Et puis la collection Meurtre A fait un tabac au Japon.
Et le Bureau des légendes, c'était en 2016. Les deux premières saisons avaient rapporté près de 3 millions d'euros à l'étranger. On va parler après la tendance de la tendance dans la tendance.
C'est la suite de l'infomédia du jour avec la fiction française à l'honneur. Elle se porte bien, est-elle créative? Vous nous en parlez, Philippe Vandel, avec vos invités. Philippe Bailly, président de NPA Conseil, spécialiste dans l'économie des médias. Et François Rousseau, journaliste média.
De plus en plus de fiction dans les programmes de télé, c'est la tendance. Et François Rousseau, vous avez relevé une tendance dans la tendance, l'adaptation de succès littéraires ou de faits divers.
Exactement, c'est la grande mode. En fait, quand vous adaptez un best-seller, le risque est mesuré. Regardez les audiences du Temps est assassin, hein, c'est la série en ce moment sur TF1 avec Mathilde Seigné. C'est l'adaptation du polar de Michel Bussy. Et ben, c'est 5 millions de téléspectateurs.
Le livre lui-même était un best-seller. Exactement. En tête des ventes pendant très très longtemps.
Exactement. Et TF1 va diffuser prochainement Itinéraire d'une maman braqueuse. C'est l'histoire vraie de cette mère célibataire surendettée à Marseille qui a braqué le bar tabac en bas de chez elle. Elle en a fait un livre. Et ce film, produit par TF1, est en compétition à La Rochelle, puisque s'ouvre mercredi, après-demain, le Festival de la fiction française. Et vous savez quel homme sera à l'affiche?
Non, pas du tout, dites.
Le plus recherché de France, Xavier Dupont de Ligonnès.
Attendez, on le cherche partout, il va aller à La Rochelle. Non, c'est pas possible.
M6 va présenter en avant-première sa future série, ça s'appelle Un homme ordinaire, ce sera en 4 épisodes, et c'est une série inspirée de l'affaire, avec l'acteur Arnaud Ducret.
Philippe Bailly, vous voulez dire quelque chose?
Non, je voulais rebondir, parce que depuis tout à l'heure, on peint un paysage tout rose, ou presque.
Ouais.
Une des forces de la fiction française, c'est un peu aller au-delà, François l'a dit, de ses piliers traditionnels qui étaient le polar et l'humour, pour aller vers du sociétal, du concernant. Il y a des genres, malgré tout, qu'elle ne sait pas encore traiter. Typiquement, la science-fiction, le fantastique, des séries comme 13 Reasons Why qui cartonnent sur Netflix. Et quand un producteur s'y est essayé, Capa en l'occurrence, et qui a fait Osmosis pour Netflix, bah c'était raté, ça n'a pas fonctionné. Autrement dit, les producteurs français aujourd'hui, encore une fois, se sont diversifiés. Il y a encore un effort à faire pour couvrir toute la palette.
Alors là, on était avec Xavier Dupont de Ligonnès, mais je crois que c'était TF1 qui s'était emparé de cette affaire.
Aussi, oui. Ah. Ah bah c'est deux pour le prix d'un, puisque dès le 23 septembre, TF1 diffusera sa mini-série intitulée « La part du soupçon », inspirée librement de l'affaire de Ligonnès, avec Cadmerade, un personnage sombre. Il incarne un homme qui a refait son visage et on se demande du début à la fin s'il a, oui ou non, liquidé sa famille 15 ans auparavant.
Question à Philippe Bailly, quand on adapte un roman à succès, ça minimise les risques, parce qu'évidemment l'auteur et le livre sont très connus, ou au contraire, est-ce que ça accroît les risques financiers parce que les droits d'adaptation coûtent plus cher?
Alors, globalement, c'est évidemment ça aide. C'est-à-dire qu'on a un paysage dans lequel il y a de plus en plus d'offres partout, de plus en plus de fiction sur les chaînes de télé, mais de plus en plus, et là, par dizaines, par centaines, sur les plateformes. Donc, tout ce qui permet à un moment de s'appuyer sur une marque, et pardon, les fictions sont aussi des marques, même si c'est surtout des créations, déjà construites, qui permet de raconter une histoire avant même que la série arrive à l'antenne, tout ça, c'est bon, c'est pain béni pour les chaînes.
Et puis on peut aussi se dire que si un livre se vend, c'est qu'il est bon, et donc il vaut mieux faire un scénario à partir d'un bon livre qu'à partir d'un mauvais.
On a vu quand même aussi quelques adaptations qui étaient ratées.
Ah, mais plein. La création originale dans tout ça, François, il n'y en a pas ou il y en a?
Si, elle existe, bien sûr. Il y a des mastodontes, il y a Candice Renoir, il y a Clem qui se poursuivent, et puis surtout la création, elle se décline en saison. Baron Noir sur Canal+, il y a la saison 3 qui est en tournage.
La série politique.
Exactement, avec Cadmerade aussi. Il y a 10% sur France 2 qui a été un grand succès, et il y a une saison 4 en tournage.
Dernière. Qui sera la dernière.
Exactement. Et néanmoins, c'est énormément d'adaptations ou d'inspirations qui sont nées d'événements. Par exemple, TF1 a cartonné avec Les Bracelets Rouges, qui est une très belle série. C'est l'adaptation d'une série espagnole. Là, elle va lancer le bazar de la charité. Ça s'appuie sur un fait réel, puisque c'était l'incendie d'une vente de bienfaisance en 1897. Et puis France 2, souvenez-vous, en juin, a diffusé un film sur l'attentat du Bataclan, où elle continue Les petits meurtres d'Agatha Christie, inspirée de l'écrivaine.
Agatha Christie. Question voilà. À Philippe Bailly. La France a lancé Salto, plateforme commune entre TF1, le groupe TF1, le groupe France Télévisions, le groupe M6. C'est bien beau, c'est magnifique, ils ont 50 millions. Comment peuvent-ils ou pas résister à Netflix et autres Disney ou Amazon Prime?
Ça va être compliqué, ça va être d'autant plus compliqué que la France, adorant dire d'un côté qu'elle veut aider ses champions nationaux et adorant d'autre part leur mettre des boulets aux pieds avant de leur demander de courir un 100 mètres, là l'autorité de la concurrence pendant l'été a rendu une décision, on ne va pas rentrer dans les détails, sur les conditions que TF1, M6, France Télé devront respecter autour de Salto. Et pour la faire courte, je pense qu'aujourd'hui, les synergies que TF1, France Télévisions et M6, encore une fois, vont pouvoir mettre en œuvre pour aider Salto à réussir, c'est à peu près autant que si le boucher charcutier du coin de la rue s'était mis à avait eu le même projet. On leur interdit de faire de la promotion croisée, on limite très fortement ce qu'ils vont pouvoir faire en termes d'achat de droits combinés, etc. Réellement, on n'a pas aidé cette plateforme à préparer son décollage. Malgré tout, on a en face trois groupes puissants, des gens qui ont beaucoup de savoir-faire en termes d'achat, en termes de mise en production, etc. Souhaitons le meilleur à Salto. Encore une fois, simplement, ce qu'on peut dire, c'est que on la met pas sur une rampe de lancement très favorable.
Je précise que ce matin, Raprikian, qui était interviewé par TF1, nous apprenait ou nous rappelait que TF1 produisait Le Bazar de la Charité en coproduction avec Netflix. François, vous dites que la bonne santé internationale de la fiction française, c'est également grâce au boom des plateformes SVOD depuis 5 ans.
Exactement. Les plateformes, elles ont créé un appel d'air et elles ont aussi produit chez les scénaristes français une forme d'émulation avec cette concurrence.
Ils veulent tous faire la Casa de Papel.
Voilà. Ils veulent tous une écriture nouvelle. Et vous savez, depuis hier, à Biarritz, il y a un grand marché de l'exportation des contenus français qui a commencé. C'est un rendez-vous annuel avec 260 acquéreurs étrangers qui viennent de 60 pays. Et c'est là que la fiction française se vend. Et sachez que l'année dernière, les exportations ont atteint près de 276 millions d'euros. C'est le troisième niveau, le plus haut en 25 ans, selon le CNC, le Centre National du Cinéma.
Ça paraît beaucoup, mais juste pour situer, le budget production de Netflix cette année, c'est 20 milliards de dollars.
Oui.
Donc nos 276, c'est pas le boucher charcutier, mais c'est pas non plus foufou. Hein.
Exactement. Bon. Et parmi les séries qui cartonnent, bon, il y a Un village français, c'est terminé, mais ça se vend toujours à l'international. Et puis il y a Engrenage, il y a Versailles, je disais tout à l'heure Candice Renoir, mais aussi Le Bureau des légendes ou 10%.
Il nous reste une minute, vous voulez dire un mot des feuilletons quotidiens.
Il y a 4 ans ou 5 ans encore, on était à peu près persuadé que Plus belle la vie resterait l'exemple et le seul exemple de feuilleton quotidien qui fonctionne. Et puis TF1 a lancé Demain nous appartient, et puis
France... On a dit il n'y a pas de place pour deux.
Voilà,
finalement, il y a eu de la place pour deux. Et puis,
rappelez-vous, on avait dit la même chose d'ailleurs sur les chaînes d'info.
Je me souviens très bien.
Aujourd'hui, il y en a 4.
Oui, mais il n'y a qu'une seule de rentable.
Absolument. Mais en tout cas, s'agissant de... C'est mieux pour les feuilletons, puisque donc TF1 a lancé DNA, France Télévisions a lancé à la rentrée dernière Ainsi Grand Soleil, et tout le monde a trouvé sa place. Alors, avec un petit peu d'intelligence dans le fait que ils ne sont pas programmé en frontal.
Bien sûr.
Celui qui est absolument fan de feuilleton peut regarder les trois tous les soirs. En tout cas, aujourd'hui, ça marche.
Et Nicolas Taverneau, le PDG d'M6 Group, nous a annoncé ou rappelé hier qu'ils allaient en lancer un, eux, à leur tour. Je ne sais pas comment ils vont faire pour les horaires. Ils vont le passer à minuit peut-être ou à 7h du mat.
On regardera en replay.
On regardera en replay. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Philippe Bailly, fondateur et dirigeant de NPA Conseil, un cabinet spécialisé dans l'économie des médias. Merci à François Rousseau, journaliste média.
Merci Philippe.